Le journal, Valentin Bertrand. Bonjour Valentin.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Vivre dans la faim et la peur du bain de sang, les Gazaouis réfugiés à Rafah se sentent comme pris en étau face à l'imminence d'une attaque israélienne.
Un témoignage rare dans ce journal, celui d'un soldat israélien de retour de Gaza, un homme déterminé mais aussi critique sur cette offensive.
AA, A+, A-, quelle note pour la dette de la France ? Deux agences rendent leurs évaluations ce soir. Bercy espère toujours convaincre avec des coupes budgétaires. Retour sur le discours d'Emmanuel Macron hier à la Sorbonne. Le président a-t-il sauvé sa campagne des européennes ? Ce sera le biais de Jean Lemarie. Et nous irons à Tours où les musiciens de l'orchestre se mobilisent depuis plus d'un mois pour convertir leur CDD en CDI. Des tentes sont montées, des divisions de militaires postées aux portes de Rafah. L'offensive militaire israélienne annoncée depuis le début de l'année contre cette ville frontalière au sud de la bande de Gaza semble proche. Les mises en garde de la communauté internationale n'ont pour le moment pas été entendues. Et à l'intérieur de la ville, où vivent 1,5 million de Gazaouis réfugiés, c'est donc la crainte d'une bataille sanglante, Thibault Lefebvre.
Depuis quelques jours, les frappes israéliennes sont plus intenses sur Rafah.
La nuit dernière, il y avait des bombardements. Ils ont bombardé 3-4 cibles.
Alors Nabil et ses 3 enfants veulent quitter l'enclave au plus vite pour l'Égypte. 80 à 100 000 Gazaouis ont traversé la frontière depuis le début de la guerre, comme l'a déclaré hier l'ambassadeur palestinien au Caire.
Je ne peux pas rester. Je vais vivre, faire grandir mes enfants. Pourtant, sortir du Gaza, il faut payer. 5000 euros pour chaque personne. Vous voulez que je vends mes reins ou quoi ? J'en peux plus.
Samira est-elle condamnée à rester à Rafah ?
Tu sais, le problème où c'est que mes parents sont vieillis. Mon père, il a presque 90 ans. Je fais des prières pour qu'ils n'entrent pas à Rafah, parce que vraiment, c'est de la catastrophe.
Alors, elle a décidé d'attendre en famille l'offensive au sol israélienne dont elle entend parler depuis plusieurs semaines, mais qu'elle ne voit pas venir.
Jusqu'à maintenant, les choses ne sont pas claires. Les gens ici à Rafah, ils ne veulent pas bouger de Rafah. On attend que les Israéliens lancent des décisions pour qu'on puisse trouver une autre place.
Avec pour le moment 2 options sur la table, Khan Younes, plus au nord, où des tentes ont été installées, ou le camp d'Al-Mawazi, au bord de la mer, où des centaines de milliers de déplacés survivent dans des conditions sanitaires déplorables.
Témoignage recueilli par notre correspondant Thibault Lefebvre. Face à la posture inflexible du cabinet de guerre de Benjamin Netanyahou, l'Égypte espère encore pouvoir obtenir une trêve en échange d'une libération d'otages par le Hamas. Une délégation égyptienne est arrivée ce matin en Israël pour tenter de relancer des pourparlers au point mort depuis des semaines. Et sur le terrain, que pensent les soldats israéliens de cette offensive ? Depuis le début de l'attaque, du 7 octobre, 600 militaires sont morts. 6 mois plus tard, la détermination à démanteler le Hamas est toujours là, mais certains commencent à s'interroger sur la méthode. C'est le cas de ce réserviste de retour de la bande de Gaza. Il s'est confié à nos envoyés spéciaux Omar Waman et Eric Audra.
Daniel, la trentaine, a passé un mois dans la bande de Gaza. Ce qui l'a frappé, c'est l'ampleur des destructions.
Le paysage est détruit. Il n'y a pas une fenêtre qui tient. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de maisons qui sont totalement détruites. Une espèce de chaos.
Un chaos généralisé et de nombreuses victimes des frappes de l'armée israélienne.
J'ai vu en effet des cadavres, visiblement des gens qui avaient été tués lors de bombardements, qui étaient dans les décombres. Personne n'est préparé à quelque chose d'une telle ampleur en termes de destruction, en termes de cadavres dans la bande de Gaza.
Ce franco-israélien a également été témoin de la souffrance des habitants de l'enclave palestinienne.
En effet, la population civile palestinienne qu'on voit, elle est dans un état de désespoir assez avancé. Moi, personnellement, je ne suis pas de ceux qui sont contre l'entrée d'aide humanitaire. Il faut, au contraire, faire entrer l'aide humanitaire en masse. Et je pense même que cette aide humanitaire, elle est une condition pour que Israël continue son opération dans la bande de Gaza.
Après cette mission, Daniel avoue qu'il a besoin, comme des milliers de soldats de l'État hébreu, d'une assistance psychologique.
Oui, c'est sûr que ça nous travaille. Je pense qu'il y a des soldats qui en ont pour l'instant plus besoin que moi. Quand la situation se calmera un petit peu, on s'en occupera aussi.
Et ce que souhaite par-dessus tout ce soldat qui se dit de gauche, c'est que les responsables du fiasco sécuritaire du 7 octobre rendent des comptes.
Alors que cette aide humanitaire entre toujours au compte-gouttes dans l'enclave palestinienne, les États-Unis annoncent un changement de méthode. Un port flottant sera construit au large de la bande de Gaza. Il permettra des livraisons plus importantes avec des navires de grande capacité. Les États-Unis, où l'écho de ce conflit s'est décuplé ces derniers jours avec l'installation de campements de manifestants pro-palestiniens sur plusieurs campus. Après une série d'arrestations controversées en début de semaine, l'université de Columbia à New York renonce pour le moment à l'évacuation de 200 étudiants. À 7 mois maintenant des prochaines élections américaines, la Hongrie est devenue une terre de choix pour les Trumpistes. La capitale Budapest accueille depuis hier la conférence biannuelle des républicains américains. Cette grand-messe des ultra-conservateurs permet surtout à l'ancien président Donald Trump, à nouveau candidat à la Maison-Blanche, de promouvoir le national-populisme en Europe. Et pour ça, Florence Labrière, Donald Trump a trouvé un partenaire de choix avec le premier ministre hongrois, le souverainiste Viktor Orban.
Des ténors de l'extrême droite se retrouvent à Budapest sous la bannière « Non au wokisme, non aux questions de genre et à la migration ». Viktor Orban, le premier ministre hongrois, a ouvert le bal. Pour lui, les conservateurs et les souverainistes sont victimes d'un complot gauchiste.
Les libéraux progressistes oppriment les conservateurs en Europe. Ils font pareil aux États-Unis. Ils se servent des tribunaux pour écarter Donald Trump de la course électorale.
C'est la troisième année que cette conférence des républicains américains a lieu à Budapest. Pour Peter Rona, professeur à l'université d'Oxford, cela montre que Donald Trump a réussi à américaniser les extrêmes droites européennes.
La politique européenne s'est déplacée vers la droite, sous l'influence de Donald Trump. Beaucoup d'imitateurs sont apparus, comme Orban. Ils idolâtrent Trump, ils étudient ses méthodes et les adaptent à leur pays.
Viktor Orban a dépensé des millions de dollars auprès des lobbyistes américains pour attirer les républicains à Budapest. Aujourd'hui, le dirigeant hongrois s'affiche en fer de lance du trumpisme en Europe. « J'attends avec impatience le retour de Trump à la Maison-Blanche », a récemment déclaré Orban.
Florence Labrière, correspondante de France Culture en Hongrie. C'était le 27 avril 1984, il y a 30 ans demain, tous les Sud-Africains étaient appelés aux urnes pour les premières élections multiraciales organisées dans le pays. Un scrutin remporté par le Congrès national africain qui a amené au pouvoir Nelson Mandela. Le premier président noir a alors fait de l'école une priorité après un demi-siècle d'apartheid. 30 ans plus tard, le Congrès national africain a généralisé l'accès à l'éducation, parfois au détriment de la qualité. Classes surchargées, écoles en mauvais état et même au sein des savoirs, l'illettrisme qui persiste, comme l'explique Nambulelo Vali, professeur d'anglais dans une école de la province du Cap-Oriental.
C'est pas une classe facile, les 9-10 ans. Chez les 9-10 ans, il y a des élèves qui ne savent ni lire ni écrire. Parmi ma classe, je pense avoir seulement 20 élèves sur 48 qui savent lire. J'en veux vraiment au gouvernement. Il n'y a aucune école pour l'éducation inclusive. On n'a pas de professeurs qui pourraient s'adresser à tout type de niveau. Il nous faudrait des éducateurs, des psychologues qui travaillent ensemble pour s'occuper des élèves. Ici, on est dans un quartier pauvre. Les parents boivent ou font toutes sortes de choses et ça déteint sur les enfants qui ont des problèmes. On a besoin d'aide. Il faut faire quelque chose.
Extrait du grand reportage de France Culture, l'éducation, l'ombre au tableau du Congrès national africain. Un reportage signé Romain Chanson et réalisé par Annie Bro. Il sera diffusé ce soir de 17h à 18h sur France Culture.
8h09 sur France Culture, la suite du journal de Valentin Bertrand. Verdict ce soir pour Bercy. Deux agences de notation rendent leur évaluation sur la dette de la France.
Fitch et Moody's se prononceront à la fermeture de la bourse. En novembre dernier, elles n'ont pas revu leur appréciation, mais cette fois, le scénario redouté, c'est une note revue à la baisse, synonyme d'emprunt plus cher. Car depuis le début de l'année, Marie Viennot, les mauvaises nouvelles économiques et budgétaires s'enchaînent.
Croissance inférieure aux prévisions, recettes fiscales en berne, déficit et dette bien plus élevés qu'annoncés. Et malgré cela, le gouvernement n'a pas changé son objectif. Il veut toujours maintenir le déficit de la France en dessous des 3% du PIB en 2027. Le tout grâce à un effort inédit de maîtrise des dépenses. Tout est consigné dans le programme de stabilité envoyé à la Commission européenne. Alors nul doute que les agences de notation auront regardé ce programme à la loupe. Le problème, c'est qu'on ne voit pas comment les agences de notation pourraient avoir une analyse diamétralement opposée à celle du Haut Conseil des Finances Publiques. Il y a 10 jours, ce comité composé de magistrats de la Cour des Comptes, de quelques économistes et du directeur de l'INSEE a publié un avis très sévère sur les prévisions budgétaires du gouvernement jusqu'en 2027. Manque de crédibilité, manque de cohérence, documentation des économies lacunaires. À ces mots, le FMI a ajouté des chiffres qui décrédibilisent également les projections du gouvernement, puisqu'il estime, lui, qu'en 2027, le déficit public de la France atteindra 4,3% du PIB, bien loin des 2,9% promis. Les deux agences de notation elles-mêmes ont déjà exprimé leur scepticisme à ce sujet. Voilà pourquoi ce serait une surprise si la note qu'elles attribuent à la dette de la France restait ce soir inchangée.
Une semaine après le début des travaux préparatoires à l'Assemblée sur le projet de loi fin de vie, Emmanuel Macron doit rencontrer ce soir les membres de la Convention citoyenne chargée l'an dernier de lui rendre un avis sur la question. Avis favorable pour 3/4 des 184 participants. Beaucoup attendaient d'ailleurs ce point d'étape promis par le chef de l'État, l'occasion de l'interpeller sur la traduction législative de leurs travaux, Stéphane Robert.
L'échange avec Emmanuel Macron ne devrait pas durer très longtemps, une heure leur a-t-on dit, pas beaucoup plus. Et ils pourront poser quelques questions, 5, peut-être 6, on verra. Alors ils se sont concertés sur le groupe WhatsApp qu'ils ont créé, groupe baptisé les 184. Ils ont élaboré une liste d'une vingtaine de questions et puis ils ont voté pour faire émerger les plus pertinentes. Pourrait ainsi être demandé au président s'il compte pérenniser les conventions citoyennes ou bien comment il imagine améliorer leur fonctionnement. Sur l'aide active à mourir, les membres de la Convention citoyenne attendent des précisions. Dans le projet de loi, quand on parle d'aider à mourir quelqu'un dont les jours sont comptés à court ou moyen terme, moyen terme, ça veut dire quoi ? S'interrogent ceux qui ont travaillé plusieurs mois sur la question. Et puis ils attendent aussi des clarifications de la part du chef de l'État. Le texte de loi parle d'aide active à mourir, mais il omet les mots « suicide assisté » ou encore « euthanasie ». Or, c'est pourtant bien de ça qu'on parle, s'agace un membre de la Convention. Il ne faut pas avoir de fausse pudeur, poursuit celui-ci. Il faut être clair, il faut dire les choses. Toutefois, cette nouvelle rencontre avec le président devrait rester courtoise, car ils ont des questions, mais ils n'ont pas vraiment de griefs ou de réclamations. Tous parlent de l'expérience extraordinaire qu'ils ont vécue en participant à cette convention citoyenne, et ils en savent gré à Emmanuel Macron.
Le projet de loi fin de vie qui doit arriver le mois prochain dans l'hémicycle à l'Assemblée, son adoption définitive, elle, prendra plusieurs mois. Le groupe Nexity va supprimer 500 emplois, soit 11% de ses effectifs. Le premier promoteur immobilier français subit la crise du bâtiment. L'année dernière, les ventes de logements neufs ont reculé d'un tiers. Les musiciens de l'Orchestre National de Tours réclament de meilleures conditions de travail. Après une grève le mois dernier, ils continuent d'alerter sur une possible disparition de leur formation et viennent de lancer une pétition en ligne. Elle a recueilli 4000 signatures. Cette discorde avec la mairie de Tours, elle a démarré, Louis-Valentin Lopez, avec l'attribution des crédits pour cette année.
Passer en CDI à temps complet, c'est ce que demandent avec insistance les musiciens précaires de l'Orchestre de Tours depuis 2 ans. Laura Perrine-Martin est hautbois co-solo à l'orchestre, membre du STAM, le syndicat tourangeau des artistes musiciens.
On est sur des statuts qui permettent à la structure, dès qu'elle a un problème, de réduire soit le nombre de musiciens, soit le nombre de répétitions, le nombre de concerts. Ça veut dire moins de levée de rideaux, ça veut dire un service public qui n'assure pas l'ensemble de ses missions.
Avec une grande angoisse, dit la hautboïste, pour l'avenir de la formation.
C'est un orchestre qui est financièrement, on est sous-doté depuis très longtemps. C'est la fin de l'Orchestre de Tours si on s'entête dans ce sens-là.
Non, il n'est pas question de faire disparaître l'orchestre, nous dit-on du côté de l'employeur, la mairie de Tours. Elle reçoit en ce moment les musiciens un par un pour évoquer leur statut. Mais pas question non plus pour Christophe Dupin, l'adjoint à la culture, d'envisager des CDI à temps plein.
Parce que des CDI à temps complet, il faudrait, on estime, à peu près 3 millions d'euros supplémentaires par an. Le budget du Grand Théâtre de Tours, c'est 650 000 euros de plus cette année par rapport à il y a 2 ans.
Justement, ce budget, il déplore qu'il ne soit pas fléché vers les musiciens de l'orchestre.
Il n'y a pas que l'orchestre régional, il y a aussi les administrations, les diffuseurs, il y a aussi le chœur. Nous regrettons qu'il n'y ait pas eu une activité plus importante encore pour les musiciens. Mais ça, c'est les effets de l'inflation.
Et l'élu est catégorique, la permanentisation n'est pas à ce jour un horizon pour la formation. La région Centre-Val de Loire est la seule en France métropolitaine, avec la Corse, à être dépourvue d'orchestre permanent.
La mobilisation des musiciens de l'orchestre de Tours qui a reçu le soutien de plusieurs artistes renommés comme le violoniste Renaud Capuçon ou Daniel Harding, l'ancien directeur musical de l'orchestre de Paris. Un mot de météo pour finir avec deux nouvelles perturbations pluvieuses qui arrivent l'une par l'Atlantique, l'autre par la Méditerranée. Dans l'après-midi, les averses parfois orageuses vont se généraliser. Seul le sud de l'Occitanie devrait passer entre les gouttes. Les températures ce matin, il fait entre 3 et 7 degrés en général, entre 7 et 11 sur la côte. Et cet après-midi, on a temps de 13 à 16 du nord au sud et de 17 à 19 en Occitanie et en Corse.